La FIFA à Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Le dirigeant malgache à la tête de la CAF depuis 2017 était poursuivi pour diverses malversations. Enfin, assez peu de changements au classement du tennis mondial à l'issue du Masters de Londres qui vient de mettre fin à la saison 2020. Grâce à son sacre le premier au Masters, le russe Daniil Medvedev, le numéro 4 mondial, se rapproche de la 3e place. Le numéro 1 au classement ATP reste Novak Djokovic qui a même augmenté son avance sur le numéro 2, Rafael Nadal. C'est la fin du journal. Merci d'avoir écouté.
Radio G. www.radio-g.fr.
Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Aérons les pièces plusieurs fois par jour. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Poussent inexorablement, la lumière du soleil décline chaque jour. On rêve de revoir les visages de nos amis tout proches du nôtre, et c'est lundi. Il est à peine plus de 18h11, bienvenue à l'écoute de l'Oreille Curieuse. J'espère avec beaucoup de joie vous rejoignez votre réjouissance culturelle quotidienne sur Radio G. Rassurez-vous, tout a une fin, que cela soit le confinement, l'hiver, la déprime, ou même les émissions de radio et les introductions. Notre projet ce soir est de passer 40 minutes ensemble pour un moment aussi agréable que possible. Et au programme, le lundi, c'est le jour où une semaine sur deux, on retrouve la chronique philosophie grâce à Émilie. Elle sera là en deuxième partie d'émission pour le croc philo. Je ne connais pas encore le sujet, mais je suis sûre que ce sera très bien. Avant cela, j'inaugure aujourd'hui une nouvelle chronique, la Selecta Podcast, où je vous recommanderai de l'audio hors radio. Et pour cette première, je vous invite à danser, à vous réveiller, à bouger. Et enfin, vous retrouverez exceptionnellement le répondeur. Il y a deux saisons, ce rendez-vous régulier enchantait vos oreilles dans l'émission. Et ce soir, j'ai cédé à l'appel de la nostalgie. Derrière ce micro et derrière cette émission, c'est Annelie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le proverbe du jour qui devrait vous servir de guide astral dans les prochaines semaines est « Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation ». Si cela vous inspire, n'hésitez pas à réagir. Je reste à proximité du téléphone de Radio G, on ne sait jamais. Je suis sûre que vous connaissez le numéro par cœur, 02 41 60 47 47. Et maintenant, on ouvre bien sûr cette émission en musique avec un titre de Johann Papa Constantino. Et le titre, c'est Lundi.
Pour mon poteau, je te le dis depuis un lundi. J'avais tout misé sur ma peau. Tu m'as dit Jojo, vas-y, piano. Oh, σε μεφυσμένο ακόμα. Σου είπα ρε από τη Δευτέρα. Πρώτη πάντα όλες οι νύχτες. Κουρασμένος με τις κοπέλες. J'ai jeté mon téléphone à l'eau, rattrapé par les griffes d'un oiseau. Il a pris les nuages en photo, disparu au milieu d'un halo. J'ai pleuré devant la fin d'un manga. Pétait le chagrin soudé, Aïdé Maga. Elle essayait de me joindre via réseau. Elle est tombée sur l'oiseau qui dit allô. Et encore et pour mon poteau. J'avais tout misé sur ma peau. Tu m'as dit Jojo, vas-y, piano.
C'était Joanne Papa Constantino. Si vous vous posiez la question, la langue qu'on entendait, autre que le français, c'est du grec. Une culture qui inspire aussi beaucoup la musique de ce musicien et chanteur. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de débuter cette semaine d'émission en douceur, ou du moins avec un peu de légèreté. Et j'ai été dans la grande salle d'archives de Radio G, et j'y ai trouvé la toute petite boîte du répondeur, cette toute petite chronique, la seule véritablement consacrée à l'humour dans l'histoire de cette émission. Le répondeur, c'était une chronique à l'antenne il y a deux saisons. Elle décortiquait les messages laissés de façon réelle ou fictive, nul ne sait vraiment, sur la boîte vocale de Radio G. Et ce soir, je vous propose de retrouver l'un de ces épisodes. Il est rempli de personnages qui, personnellement, me manquent un peu plus chaque jour, je pense que vous aussi. Alors, pour le contexte, et vous permettre de savourer, j'espère, ce répondeur, je vous rappelle qu'il y a deux ans, ce n'était pas le Covid qui occupait nos esprits et nos médias, mais c'était la crise des Gilets jaunes. On va voir comment c'est arrivé sur notre boîte vocale.
Allô ? Allô ? Non mais allô quoi ? Je sais pas, vous me recevez ? Non mais allô quoi ?
Allô ?
Attends, il fait bon.
Je vous réveille ?
Hello ?
Allô ? Allô, Bobby ?
C'est un message appel pipi, vous rappellera l'eau d'une pipe. C'est à vous de parler.
Hein ? Il est pas beau celui-là ?
Le répondeur de Radio J.
Bonjour, c'est Donald Trump. J'ai appelé pour dire j'adore votre émission. Le Radio G, c'est super. You make it great again. And Annelie, j'aime beaucoup ce que vous faites. À bientôt.
Chers concitoyens, c'est Christophe Deschu à l'appareil. J'ai bien entendu vos revendications et sachez que moi aussi, j'ai porté le gilet jaune ce week-end. Je tenais également à vous féliciter car vous faites vraiment, mais vraiment un excellent café. À bientôt, j'espère. Ah non, mais il était vraiment excellent ce café.
Bonjour, c'est Gribouille. Bah, du coup, je suis retourné dans la cave. Mais comme je suis tout seul, j'écris des poèmes. Si vous voulez, je peux vous en lire un. Ça s'appelle « Tout seul ». Le lundi, je suis tout seul. Le mardi, je suis tout seul. Le mercredi, je suis tout seul. Le jeudi, je suis tout seul.
Ici Thierry Lallemand, grand reporter et correspondant pour Radio G à Feneu. Dans la région, la mobilisation des Gilets jaunes ne fait pas défaut puisque... Et les exemples sont nombreux. Tenez, au hasard, j'ouvre Facebook et je remarque un gif animé représentant une pompe à essence qui se transforme en bandit manchot. La colère gronde chez nos concitoyens, soyez-en sûrs. Nous vous tiendrons informés, bien sûr, heure par heure, sur l'évolution de la situation.
Le vendredi, je suis tout seul. Le samedi, le dimanche, je suis tout seul. En janvier, je suis tout seul. En février, je suis tout seul. En mars, je suis tout seul.
Bonjour, c'est Vinker. Je suis actuellement à la recherche d'un stage en bac pro communication. Si vous pouviez faire passer le message, c'est pour le mois de mai.
Avril, je suis tout seul. En mai, je suis tout seul. Juin, juillet, août, je suis tout seul.
Tu veux un corps de rêve, des abdos bien dessinés et des fesses rebondies? Alors va courir. Ouais, je sais, c'est l'hiver et la piscine, c'est vraiment compliqué de se motiver. Perso, je pratique la raclette. La raclette, c'est vraiment pas le moment d'oublier les cornichons.
Vladimir Poutine dans le cabinet. Je vais avoir écouté Oreille Curieuse. C'est être moins bien que émission Vladimir Poutine, mais j'ai bien aimé aussi. Je voudrais être répondeur qu'à très très bonne séquence dans émission. Très chaleureusement, Vlad.
En septembre, je suis tout seul. En octobre, je suis tout seul. Novembre, je suis tout seul. Et en décembre, ben, je suis tout seul.
C'est à cause de mon répondeur, y'a absolument rien sa cassette. Le petit cassoir dans mon petit cœur, il fait frais.
Voilà, j'espère que vous avez souri au moins une fois à l'écoute de ce répondeur, que je trouve personnellement toujours actuel. Et bien sûr, un immense merci à Pierrot, l'artisan de cette chronique passée de l'oreille curieuse. Voilà pour les archives radiophoniques. Je profite de quelques instants pour vous glisser un mot sur la programmation de Radio G ce mercredi. À l'antenne, de 14h à 18h, nous diffuserons des rencontres et conférences autour du numérique, avec un séminaire d'études critiques des cultures numériques. C'est une journée proposée par le Centre social du Chemillois et l'association Ping à Nantes. Ça s'annonce très intéressant. Vous avez le programme complet sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. Pour l'heure, j'inaugure une nouvelle chronique dans l'émission avec la Selecta Podcast. Ici, nous parlerons de podcasts natifs, c'est-à-dire qui ne sont pas diffusés sur la bande FM. Ils sont vraiment faits que pour vos ordinateurs, internet, vos smartphones. Mais si vous aimez la radio, vous aimerez ces contenus et écritures sonores, d'autant plus que je vais trier sur le volet ce que je vous propose dans cette nouvelle Selecta Podcast. Alors aujourd'hui, et pour cette première, je vous parle de Faya. C'est le podcast du Global Dance Floor. C'est comme ça qu'il se présente. Et il est réalisé par Renaud Brizard. Le principe, le point de départ, c'est de se dire sur quels sons se déhanche-t-on à Sao Paulo, à Abidjan, à Johannesburg, en Amérique, n'importe où. Avec un épisode par mois, le podcast se penche sur un genre musical bien particulier, souvent ultra spécifique et contemporain. Quelque chose qui se vit aujourd'hui en 2020. Et on est vraiment sur un podcast qui s'inscrit dans tout ce qu'on va appeler sono mondial. Dans Faya, donc, on décortique la musique. Par exemple, l'amapiano, le rap ivoire ou le jersey club. Ça, c'est tous les styles qui ont été abordés dans les trois premiers épisodes. Et on parle bien sûr de comment est construite la musique, mais aussi de l'histoire de ces courants et de leurs contextes sociaux. C'est Renaud Brizard, donc, qui est derrière ce podcast. Il est programmateur musical, ethnomusicologue et DJ, donc il connaît bien le sujet. Et ce que je trouve intéressant avec Faya, c'est qu'il échange tout au long de l'épisode avec des artistes et producteurs ou productrices qui font ses musiques. Et tout ça grâce aux notes vocales de WhatsApp, qui est aussi très concrètement un outil pour faire circuler la musique et un outil de développement aujourd'hui. Ça donne un podcast détaillé, où on entend de quoi on parle, la musique avant tout, hein, que ce soit des extraits ou des morceaux complets, et avec des interviews des premières personnes concernées, ou bien des retours, des anecdotes, plein de choses. Ce podcast donc, Faya, vous intéressera si vous aimez danser, si vous aimez la musique, si vous êtes curieux, curieuse de son histoire. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le sujet traité, le ton, qui est à la fois très accessible et très riche dans la documentation, et bien sûr d'entendre parler de courants musicaux, de niches, vraiment de choses dont j'avais pas la moindre idée de l'existence, et ça fait bien voyager. Pour vous donner une idée de l'ambiance de Faïa, je vous propose d'écouter la bande annonce.
Allô Renaud, c'est Christophe de Nick la radio. Écoute, vu que t'es ethnomusicologue, DJ, journaliste musical et évidemment programmateur musical de Nick, bah j'aimerais que tu fasses un truc, c'est qu'en fait tu nous fasses découvrir toutes les nouvelles scènes musicales du dance floor global. T'es chaud ou pas?
Hello Christophe, bah écoute, je suis grave chaud moi, hein. Afro trap, baile funk, reggaeton, péréo, G-com, tout ça, ça me parle. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse chaque mois un épisode de podcast consacré à une de ces scènes. Et puis tu sais, en Afrique, en Amérique latine, c'est vachement sur WhatsApp hein, que la musique circule et se partage. Alors ce qu'on pourra faire, c'est plonger ensemble dans mon WhatsApp, je te déniche les meilleurs sons, les tubes, les pépites, et puis comme ça on pourra échanger aussi des voice notes avec les musiciens et acteurs sur place à chaque fois, parce que c'est eux qui parlent le mieux de leur musique.
Eh ben nickel, on commence bientôt, t'as qu'à nous préparer un premier épisode sur le rap ivoire. Parce que j'ai l'impression que c'est bouillant là-bas.
Au son de quoi se déhanche-t-on à Sao Paulo, à Abidjan ou à Johannesburg? Quels sont les rythmes qui font danser le monde aujourd'hui? Faïa ausculte tous les genres qui font vibrer la planète, dans les clubs ou dans la rue. Faïa, le podcast du Global Dance Floor, bientôt disponible sur nick.radio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, SoundCloud et absolument toutes les plateformes qui existent.
Voilà, je pense que vous avez l'ambiance, l'énergie de Faïa. Je vous recommande vraiment ce podcast. Il est dispo sur le site de Nick la Radio, le studio de production, ou bien dans vos applications préférées de podcast. Quelques mots sur le studio qui produit ce podcast. Donc Nick la Radio, quel nom provocateur pour nous, qui est à la fois une web radio et un label de podcast. Leur marque de fabrique, c'est de se concentrer sur tout ce qui va être microculture, subculture, toutes ces choses populaires et de niche, mais qui influencent la société tout entière. Et ils se revendiquent comme les sales gosses du podcast, je ne peux pas en juger. En tout cas, les autres sujets qu'ils abordent sont toujours autour de pratiques. Voilà, par exemple, tout ce qui va être culture autour du cannabis, dans Banana Kush, c'est très sérieux, ou bien les musiques extrêmes, le death metal, le hardcore, trash, et ce podcast-là s'appelle « Allez le sang ». Ça tape un peu, hein. Bon, c'est la fin de cette première chronique Selecta Podcast. J'espère qu'elle vous a plu. Et pour rester dans l'ambiance Faïa, je vous propose d'écouter un titre issu du genre Amapiano. Ça nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Et le morceau que j'ai choisi, c'est Gabadilla, réalisé par Semiti. Ils sont plusieurs, je vais retrouver ma petite note. Miano, Kamoudi et Oradi. Et vous le retrouvez dans l'épisode Voices Notes from Johannesburg. Vous écoutez Radio G, vous écoutez l'oreille curieuse. Et c'est maintenant l'heure de retrouver notre goûter préféré avec le croque-philo, la chronique proposée par Émilie. Et on va basculer dans une ambiance beaucoup plus calme. Là, je vous avais un petit peu énervée, mais on va redescendre. Émilie, est-ce que tu nous entends ?
Oui, tout à fait.
Nous aussi. Ouais, je suis très heureuse de te retrouver à l'antenne.
Moi aussi, bonjour Annie et bonjour à tous les confinés. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle parenthèse philosophique. Et pour cette nouvelle parenthèse, aujourd'hui, c'est le troisième volet consacré à la philosophie et aux femmes. Après nous être demandé pourquoi les textes des femmes philosophes avaient si peu de place dans nos bibliothèques, dans l'enseignement, puis avoir il y a 2 semaines dressé le portrait de la philosophe Simone Veil, je vous invite aujourd'hui à voyager dans le temps grâce à l'histoire de la philo. Car nous allons nous intéresser à la place des femmes philosophes dans l'Antiquité grecque, ce qui nous fait remonter jusqu'à 600 ans avant notre ère. Parmi les questions que l'on peut se poser quand on aborde une nouvelle discipline, il y a quels en ont été les précurseurs, les premiers grands noms, celles et ceux dont la pensée a traversé les siècles et dont les écrits nous sont parvenus. Mais quand il est question plus spécifiquement de la philosophie et des femmes, la question se corse. Enfin, le problème, ce n'est pas tant la question que la réponse. Car au regard de l'histoire de la philosophie, communément transmises et enseignées, on pourrait même se demander si des femmes philosophes ont existé dans l'histoire de l'Antiquité. Annie, je ne sais pas si tu te fais une image d'une philosophe à l'Antiquité.
J'ai peur de botter en touche. Je devrais réviser avant de venir le lundi pour le croque-philo.
Non, mais simplement, est-ce que...
Oui.
On a des représentations de philosophes femmes ou est-ce qu'on a seulement la représentation du philosophe barbu
qui me déambule avec ses disciples?
Oui, voilà.
Bah, c'est vrai que je pense plutôt à lui quand je pense aux philosophes antiques. Je crois que je ne connais pas de...
Et effectivement, on se retrouve véritablement à ne pas avoir de représentation de femmes philosophes à l'Antiquité. Si nous nous demandons, par exemple, plus précisément, qui est considérée comme étant la première femme philosophe de l'histoire, eh bien, il y a de multiples réponses, qui semblent d'ailleurs parfois contradictoires. Et si les réponses sont multiples et contradictoires, c'est sans doute parce que chercher à répondre à cette question fait intervenir déjà un questionnement historique. L'histoire fait généralement débuter la philosophie avec Socrate. On nous apprend généralement que Socrate est un père philosophe, en oubliant par là même toute une tradition philosophique dite pré-socratique. Les programmes et les enseignements de la philosophie commencent tout juste à réhabiliter ces penseurs qui ont vécu avant Socrate, soit environ de moins 600 à moins 400 avant notre ère.
Et pourquoi on dit que c'est Socrate qui est le père de la philosophie ?
Parce que son enseignement, bien qu'il ait été exclusivement oral, son élève Platon s'est chargé de rédiger des dialogues qui ont transmis la pensée de son maître. Socrate a en quelque sorte formalisé la dialectique, cet art du dialogue qui selon lui est la meilleure forme de raisonnement possible, celle qui permet la maïeutique, c'est-à-dire de faire accoucher les esprits de la vérité. C'est donc cette forme de dialogue que l'histoire retient comme la forme de l'activité philosophique par excellence et qui fera passer de la postérité nombre des philosophes de l'Antiquité les plus célèbres après Socrate, tels qu'Aristote, Platon, qui en sont vraiment les plus célèbres successeurs. Et bien sûr, c'est par là que toute l'histoire de la philosophie, jusqu'à la pratique de la discipline aujourd'hui, trouve sa tradition. Les pensées pré-socratiques qui nous sont parvenues demeurent des formes de pensée plus fragmentées, moins développées, et nombre d'entre elles n'ont pas traversé l'histoire. Alors imaginez, par là-dessus, la pensée des femmes. Il existe de véritables difficultés, d'abord historiques, pour savoir qui étaient les femmes philosophes à l'Antiquité et ce qu'elles ont légué de leur pensée. Nous avons relativement peu de traces, bien que la philosophie ait été un domaine de l'Antiquité qui semble avoir été plus favorable aux femmes que ne l'ont été la politique, l'art, le théâtre ou encore les mathématiques. Nous disons qu'il était complexe de pouvoir citer les premières femmes philosophes, alors qu'une forme de paternité de la philosophie fait plutôt consensus autour de la figure de Socrate. La philosophie aurait donc une paternité, ça c'est acté par l'histoire, mais ne peut-on pas envisager que la discipline aussi est une forme ou une figure de maternité ? Et face à cette difficulté que l'on a à même l'envisager ou à se le figurer, on peut peut-être retenir trois raisons. Trois raisons à cette difficulté, alors il y en aurait certainement bien plus. Je ne prétends pas résumer toute la complexité de cette question ici. La première raison, déjà, c'est que, comme nous le disions, l'histoire a peu et souvent mal retenu ce que la philosophie a pu produire avant Socrate. Et justement, avant Socrate, on a un personnage qui a laissé de la place aux femmes, notamment dans son école. Et ce personnage, c'est Pythagore, qui était un réformateur religieux et philosophe, savant mathématicien que nous connaissons d'ailleurs surtout pour ça, oui. Même si on est sans doute nombreux à avoir oublié son fameux théorème, hein, n'est-ce pas, Annie ?
C'est exactement ce que je me dis à chaque fois que j'entends parler de lui, et je me dis, ouais, il faudrait que je retravaille de ce sujet. Est-ce que c'est pas si compliqué, mais ça me paraît très lointain.
Tout à fait, je serais incapable de redonner le théorème, même si parfois j'ai des élèves qui me le soufflent, je l'oublie aussitôt. Donc Pythagore avait ouvert son école aux femmes, parce qu'il aurait préalablement rencontré Aristocléia, prêtresse de Delphes, qu'il admirait et dont il aurait enseigné les préceptes. On ne trouve aujourd'hui que des mentions dans les écrits de Pythagore sous plusieurs noms de l'influence qu'Aristocléia aurait eue sur lui. Mais pourtant, une influence pas des moindres. Deuxième raison pour laquelle il est sans doute difficile de se représenter et de connaître quelles étaient les femmes philosophes à l'Antiquité, c'est que comme on a peu de connaissances de cette période, beaucoup de fantasmes viennent remplacer les connaissances. Par exemple, il y a un nom que parfois on a entendu dans notre inconscient collectif, hein, notre histoire ou notre culture générale collective, c'est le nom d'Aspasie. Aspasie était la compagne de Périclès, qui, selon les écrits des successeurs de Socrate, aurait été très estimée par lui et aurait eu une influence sur la vie politique de son époque, une influence importante. Pourtant, elle a été considérée ensuite par les écrivains grecs et certains historiens même contemporains comme une simple courtisane. Alors que, a priori, aucun fait ne vient remettre en cause sa participation à la vie politique d'alors. Et dans ce mélange entre fantasme et connaissance, il n'est pas rare aussi que pour mentionner la première femme philosophe, il faille pousser le curseur de l'histoire jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ avec Hypatie. Hypatie est une philosophe néoplatonicienne, donc dans la lignée de Platon, successeur lointaine de Platon, qui a été astronome et mathématicienne également, femme de lettres, femme de science donc. Elle est à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie au 4e siècle, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l'astronomie. C'est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée, notamment à cause de sa mort tragique, car Hypatie a été assassinée par les chrétiens. Du coup, on ne retient d'elle, souvent on la réduit à l'image d'une martyre de la philosophie, sans trop savoir, au-delà de son travail de mathématicien, ce qu'elle a pu engendrer comme pensée philosophique. Et la troisième raison pour laquelle je m'arrêterai pour justifier peut-être la difficulté de connaître les femmes philosophes de l'Antiquité, c'est que l'on voit ces femmes, quand on entend parler d'elles, quand on lit leur nom, même lorsqu'elles ont influencé des hommes que l'histoire a retenus, et même quand elles ont été chefs de file d'un courant, ce sont toujours leurs pères, leurs frères, voire leurs fils ou petits-fils, qui se trouvera être garant de leurs pensées ou de la transmission très partielle de leurs écrits. C'est le cas, par exemple, d'Arrêté de Cyrène. Alors, Arete de Cyrène était très proche de Socrate grâce à son père. Son père qui l'a formée, elle aussi, avant qu'elle ne développe son propre système. Sa pensée sera développée complètement par son petit-fils, qui est le véritable fondateur de l'école cyrénaïque. Une école finalement qui était partisan d'un courant qui célébrait le plaisir, un courant hédoniste, et qui propose une théorie originale du langage. Mais donc cette femme, Arete, a joué un rôle capital dans le développement de cette école, mais alors qu'elle a notamment enseigné durant plus de 30 ans, qu'on lui attribue de nombreux ouvrages, elle est retenue comme étant celle qui a fait le lien entre l'enseignement de son père et le développement d'une école par son petit-fils. On ne retrouve aucune mention d'elle dans les grands repères de l'histoire de la philosophie, lorsque l'école cyrénaïque pour laquelle elle a tant œuvré est mentionnée. Si je regarde les manuels des étudiants ou même les bibliographies des enseignants de l'histoire de la philosophie enseignée aux étudiants aujourd'hui, on ne trouve aucunement mention de ces femmes. Le souci, dès la formation de la démocratie athénienne, c'est la place auquel les femmes vont être cantonnées, déjà à l'époque, et qui a durablement marqué l'histoire. Car elles étaient, semble-t-il, plus libres d'exprimer leurs pensées et de leurs choix de vie avant la mise en place de l'ordre social et politique d'Athènes. Dans cette ère, nouvelle ère politique, seule la sphère religieuse et rituelle leur était ouverte. D'ailleurs, l'histoire de la philosophie est tout à fait rattachée à l'idée du développement de la discipline en même temps que celle de la notion de citoyen. La figure du citoyen, c'est celle de l'homme libre, au sens masculin du terme, qui va être capable de philosophie, c'est-à-dire de créer des catégories, des idées, des concepts pour penser le monde et sa réalité. Loin de l'idée donc que les femmes puissent participer à la vie citoyenne. Quand on sait ensuite les siècles et les siècles qu'il faudra pour que les femmes obtiennent un accès aux urnes, on comprend partiellement d'où vient l'histoire et comment elle a pu marquer la vie sociale et politique jusqu'à nos propres siècles. Et si on peut dire que le hasard de l'histoire existe, il rencontre néanmoins toujours des choix, des idées, des passions humaines. C'est ainsi que se constitue l'histoire. Et on doit à des formes politiques, sociales et culturelles la place qu'occupe dans l'histoire telle au masculin ou telle au féminin. Et la portée de certaines idées et théories dans un contexte propice ont de radicales et durables conséquences. Parmi les théories misogynes qui visaient la disparition, entre guillemets, des femmes dans la vie publique et intellectuelle à l'Antiquité, on doit notamment à Aristote l'invention en quelque sorte de la notion de sexe faible. Dans plusieurs traités portant sur les animaux, qui incluent bien sûr l'animal humain, dont l'histoire des animaux, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote construit une véritable théorie du corps féminin qui viendra justifier, selon lui, le rôle domestique auquel les femmes doivent se consacrer exclusivement. D'après lui, le sexe féminin est génétiquement inférieur au sexe masculin en raison d'un développement embryonnaire imparfait et inachevé. Elle est un simple réceptacle passif qui apporterait non pas de la semence mais une matière inerte et moins élaborée qui la rendrait impuissante à concevoir la vie. Dans sa théorie, c'est donc à l'homme que revenait le pouvoir créateur, la femme n'y exerçait qu'un rôle mineur, inférieur. Mais aussi il poursuivra l'idée d'Hippocrate qui au siècle précédent a écrit que les femmes sont froides et humides, alors que les hommes sont chauds et secs. Et cette façon de formaliser la différence entre les sexes va déterminer les représentations médicales des siècles futurs, jusqu'au Moyen-Âge et même la Renaissance.
J'ai l'impression que s'appuyer sur des mythes biologiques, c'est jamais bon signe.
Et effectivement, on est même sur un mythe biologique qui a tellement tardé dans l'histoire que quelques années, quelques siècles après Aristote, on entendra à partir de ces particularités anatomiques de l'homme et des femmes que finalement les ovaires des femmes sont le développement inversé des testicules des hommes, et donc cette inversion anatomique s'expliquait, selon Aristote, par un manque de chaleur naturelle à la physiologie féminine. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que depuis Aristote, la chaleur était tenue pour être une source d'intelligence. Et l'humidité, en revanche, pour ce qui activait la déraison. C'est toute une culture savante qui a été alimentée ainsi en par ce mythe autour de la féminité. Alors que Platon déjà considérait le féminin comme inférieur, les femmes comme étant des hommes manqués, et c'était le cas dans le contexte global de l'Antiquité à l'époque, mais Aristote a vraiment théorisé l'idée que la femme est une version imparfaite et inachevée de l'homme. Et puis effectivement, comme tu le dis, les mythes biologiques ont parachevé l'ensemble pour tous les siècles et les siècles suivants.
Ouais, et que ce soit des mythes qui ont pu être préjudiciables pour les femmes ou bien pour tout ce qui va être racisme, toutes les personnes non blanches, enfin ça peut être des mythes aussi qui ont été utilisés comme ça.
D'ailleurs, on rapporte et on croise souvent, parce que c'est le cas dans les traités d'Aristote, le parallèle qu'il peut faire, en tout cas le recoupement des imperfections du féminin qui font que les femmes sont plus proches de l'esclave ou de l'animal que de l'homme au sens masculin du terme. Donc déjà à l'époque, on croisait la misogynie entraînait aussi tout un tas de figurations, de représentations des inégalités entre les hommes, entre les êtres humains. Alors certes, de la philosophie grecque de l'Antiquité, nous n'avons que des traces partielles, notamment souvent des mentions de textes ou des personnes et de leur rôle dans la vie intellectuelle, scientifique, politique de l'époque, ce qui fonctionnait d'ailleurs souvent ensemble, de façon liée. La majeure partie des œuvres des hommes et des femmes de ces siècles-là ont été perdues. Quasiment tout ce que l'on connaît des œuvres et des personnages de l'époque nous a été transmis par leurs successeurs. Et les femmes semblent avoir été oubliées dans ce référencement, même quand on sait qu'elles ont existé et qu'elles ont joué un rôle majeur dans le développement d'une école philosophique ou mathématique. Peu de soins semblent avoir été faits de leurs œuvres, comme si elles contenaient peu de théories déterminantes. Et pour celles dont on dispose encore de textes, d'extraits de textes, ils ont été peu ou pas reproduits car ils n'apparaissent comme s'ils apparaissaient d'office comme secondaires dans l'histoire de la philosophie. Et ce n'est plus une chose même que la philosophie interroge vraiment. Comme si la place des femmes en philosophie à l'Antiquité, donc à la naissance, aux fondations de la discipline, n'aurait pas pu être différente. Comme si cette absence se résumait à un constat de fait et avait valeur de vérité sur l'absence d'originalité et d'intérêt des textes et des pensées de ces femmes. Si tu me permets, Annie, j'avais envie de lancer un petit appel.
Oui.
Très rapide, pour dire simplement à ceux qui nous écoutent que vous pouvez envoyer vos remarques, vos questions, les thèmes dont vous avez envie d'entendre parler dans cette chronique sur une page Facebook qui est la page du Croc Philo. Si vous écrivez Croc Philo avec l'apostrophe entre les deux, vous tomberez sur la page et vous y trouverez notamment le lien vers le podcast de l'Oreille Curieuse de Radio G.
Génial, et on mettra en lien la page Facebook de Croc Philo sur le podcast de Radio G.
Voilà, d'accord.
Donc on peut proposer plein d'idées de philo, génial. Oui. Merci beaucoup Émilie.
Merci Annie.
On se retrouve dans 2 semaines avec le prochain Croc Philo. Moi ça m'a fait penser, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est bon pour moi.
Ça me faisait penser au livre que je lis en ce moment, toutes ces questions. Je lis Un lieu à soi, qui est aussi traduit par Une chambre à soi. C'est le célèbre essai de Virginia Woolf, qu'elle a publié en 1929 et qui aborde beaucoup ce sujet de la place des femmes dans la littérature. On n'est pas que sur la philosophie, mais je le recommande vraiment, je vous encourage à le lire après avoir écouté cette chronique, en écoutant cette émission. Je le trouve à la fois très drôle, très actuel, et puis très fort, et puis très vivant, quoi.
Tout à fait. On pourra d'ailleurs imaginer une autre chronique dans l'année sur les liens entre la littérature et la philosophie. Et c'est vrai que on retrouve beaucoup les femmes dans ce lien entre les deux disciplines, dont Virginia Woolf, évidemment.
Il y a plein de choses à partager. Bon, hâte de découvrir tout ça. Merci encore, Émilie.
Merci à toi.
On est presque pas en retard, mais je pense cette conclusion. Merci à vous, auditeurs et auditrices, d'avoir été à l'écoute de l'Oreille Curieuse. Si vous avez raté un moment de l'émission, vous pouvez réécouter le podcast en ligne sur le site de Radio G, www.radio-g.fr. C'est à la page L'Oreille Curieuse, évidemment. On se retrouve demain à 18h10 et nous serons avec notre partenaire Engénante Opéra pour parler action culturelle et classe numérique. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter, à nous faire des retours positifs, négatifs, interrogatifs, tout ce que vous voulez. Ça peut se passer par mail à prog.radio-g@gmail.com ou bien sur les réseaux sociaux de Radio G. On sera très heureux de vous lire. À 19h, dans quelques minutes, vous allez retrouver Ça dégouline dans le cornet. Et je fais un focus sur l'émission qui sera à 23h. C'est le Manche Disque, une émission consacrée à la musique et à la culture vinyle. Et ce soir, c'est la 27e édition du Manche Disque. Et Nicolas et Julien ont préparé pour vous une émission spéciale Club des 27. Je pense que ça va vraiment être très bien parce que leurs choix musicaux sont toujours parfaits, tout simplement. Donc rendez-vous à 23h et sinon en podcast sur le site de Radio G. On compte sur vous. Merci encore, très bonne soirée et à demain. Je vous laisse avec la prog de Radio G et ses Cold War Kids. Fell asleep with stains, caked deep in the knees. What a pain. Now hang me up to dry. You wrung me out too many times. Bleeding our colors, all mixed up in the wash. Hot water bleeding our colors. Now hang me up to dry. You wrung me out too many times. We'll be right back.
why I lied to you the night you came into my room. One will settle the nerves or take the edge off. I've only got so many left to lose. I'll pick and choose.
Radio G 101.5 FM.